CFM à Castelsarrasin. 90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour.
Oui, mais il était déjà, je l'avais déjà pré-ouvert, donc je peux vous le refaire.
Ouais, tu l'as même déjà goûté.
Bonjour Pascal Olivier.
Salut à tous.
Bonjour Georges Bonfils.
Bonsoir tout le monde.
Salut Gaël Steinbach.
Salut à tous.
Aurélien est à la technique. Nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Ça va nous laisser tout le temps entre nous, de goûter des vins, goûter des préparations de Pascal Olivier, écouter vos chroniques de jazz, de...
Des recettes, il y a des interviews au téléphone,
de bande dessinée.
Aussi avec le temps des vendanges.
Ah, des interviews au téléphone.
Oui, moi je fais, on va appeler Eric Cuestas, donc c'est le patron du temps des vendanges à Toulouse, parce que demain il y a une belle dégustation avec, c'est des vins naturels, que du franc du collier, des choses... C'est un marchand de vin, oui.
D'accord.
Alors, on peut appeler ça une cave, oui, c'est un caviste. C'est un caviste, c'est un peu l'équivalent de ce que faisait Fred ici, donc des vins naturels.
C'est donc un caviste.
Un peu négociant.
Voilà.
Pas du tout, des trucs trafiqués.
C'est un caviste, mais il les vend par palette, si j'ai bien compris.
On va appeler Valérie Antérieux, qui était la boutique des vins Place des Carmes à Toulouse. La boutique des vins, c'est une vieille cave de Toulouse, elle a 40 années d'existence. Et Valérie est la fille du créateur de cette boutique, Valérie Antérieux, qui est œnologue, dont elle nous parlera de ses vins. Et notamment, elle nous a donné deux bouteilles des terres basses de la Balle, qui est un vin de pays de Coteaux de Gascogne.
Est-ce que c'est de la Balle?
C'est de la Balle.
Et, okay.
Et elle avait peur qu'on manque, donc elle a dit hop, vous allez en boire
deux. En connaissant l'équipe, j'ai dit nous sommes nombreux.
Ouais.
Oui, donc... comme d'habitude. Enfin...
Gaël, tu nous parleras
de Courtenay Crumrin, une bande dessinée de Ted Naïfet, parce qu'il y a une double actualité sur cette bande dessinée.
Eh ben voilà, c'est Qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça.
You Wilson Pickett. Hey, you drop Monsieur James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je vais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Élus, et vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui, dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune, et si le blanc
merci
n'est pas sûr,
bon.
Couleur déconseillée parmi vous.
Voilà. Avec modération.
Quoi qu'il en soit, je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais...
dernière fois que tu m'as servi, c'était des verres énormes là. C'était sans aucune modération.
Qu'est-ce qu'on perd comme
santé, oui. Arrêtons de discuter les trinquants. On va chanter tous les soirs à la Nouvelle-Orléans. Alors, ben, vous aurez reconnu forcément Nino Ferrer à la basse à cette époque-là. Ben, il y avait Joël Segura à la batterie. Il y avait
Richard Hertel
que tu connais bien. Et Joël Segura, il rend hommage en fait à Nino Ferrer. Il a monté un spectacle autour de la vie et de la musique de Nino Ferrer. Un spectacle qui sera joué à la salle polyvalente de Flojac Pujols.
Oh, Flojac Pujols.
Savez-vous d'où c'est?
J'y suis jamais été.
Eh bien, c'est dans le 46-090, mon gars. Flojac Pujols, le vendredi 22 juin à 20h30. Les places assises seront à 10€. Ce sera gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Il n'y a pas des places debout?
Eh ben, si, j'imagine.
Ou alors qu'on est assis. Hein,
voilà, c'est un spectacle audacieux, nous dit-on, sur la plaquette où se côtoient rock, latino, rhythm and blues, musique classique, et où l'on nous fait voyager dans l'univers du conte, du théâtre, du mime. Clin d'œil au cirque, et nous dévoile la face cachée de l'œuvre de Nino Ferré.
Ça doit être bien.
Bah oui, oui. Que la terre est basse, cette phrase souvent vous l'entendez et vous l'avez peut-être vous-même déjà dite,
prononcée.
Bon, plus on vieillit, plus on la prononce, hein, généralement. C'est, hein.
Oui, on dit la terre est basse, le ciel est haut, il n'y a que la table qui est au bon niveau.
Oh, bravo, oh,
c'est joli ça.
Les terres basses, c'est le nom de ce vin qu'on est en train de boire. C'est ça, hein.
Je me trompe. Terre basse, qui est un vin de pays de côte de Gascogne. Où il y a du tabac, du tanat, du merlot, mais
du cabernet aussi.
Et cabernet, c'est ce qui est marqué sur la contre-étiquette.
Voilà.
Le Labal.
Le Labal, oui.
De Labal. Voilà. Mais c'est où ça,
ah, Labal, hein. Mais non, de Labal. C'est pas le, c'est deux, c'est ça. Les terres basses de Labal.
Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
C'est le domaine de Labal.
Ça doit être ça.
Famille Laudet, ouais. Par le Bosque.
Alors, qui c'est qu'on a en ligne?
On a Valérie Antérieux en ligne.
Ouais. Valérie Antérieux qui est...
Qui est la patronne de la boutique des vins à Toulouse.
Valérie, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, merci.
Il est pas mal votre petit vin, là.
Très bien,
ah, oui.
Oui,
ça y est, vous l'avez ouvert?
Oui, ça y est. On le goûte en ce moment même.
Mais j'ai pas eu l'idée de le... Bonjour Valérie. J'ai pas eu l'idée de le mettre au frigo, parce qu'avec un peu de... Je pense qu'il doit supporter un peu de fraîcheur. Qu'est-ce que tu en penses?
En fait, avec ces températures-là un peu excessives, tous les vins méritent de passer un peu au frais, hein.
Oui, 15 degrés, c'est bien.
Avec 4 glaçons.
Ouais.
Voilà.
Non, c'est pas du rosé piscine, quand même. Arrêtez tout.
Faut pas parler de glaçons et de vin en même temps avec Pascal Olivier, hein, ça le lance.
Non.
Présentez-nous votre cave, s'il vous plaît, Valérie.
Ben, je suis située au Place des Carmes, dans le centre Toulouse. J'ai deux boutiques qui sont l'une en face de l'autre. Une avec l'épicerie et une avec le vin.
D'accord. Qu'ils sont où dans l'épicerie? C'est des produits de producteurs de la région associés, produits fins ou quoi? Qu'est-ce que c'est?
Oui, voilà. Bon, c'est pas spécialement de la région. C'est des choses qu'on goûte, qu'on trouve. Voilà, on a beaucoup d'épices, on a beaucoup de condiments, des aides culinaires. On fait tous les vins étrangers, les bag in box. Aussi, on a un rayon bière étrangère. La gamme Petrosian, du caviar, voilà.
Oh, oui.
Les glaces de chez Fort.
Voilà,
c'est varié en fait. Hein. On a beaucoup. Voilà, on met en avant les.
Mais surtout, c'est des produits plutôt épicerie fine. Hein.
Oui, voilà. Donc on a une gamme de cassoulet. Après.
Il y a pas du kiri chez vous.
Comment?
Il y a pas du kiri. Le kiri, il y en a pas.
Non mais. Un millésimé de 30 ans.
Dites-moi pourquoi avoir choisi de nous faire goûter les terres basses de Labal.
Écoutez, moi, le propriétaire est un jeune qui a repris ce domaine-là, qui date de 1860. Donc, voilà, c'est quelques générations. Voilà, et il innove assez dans la présentation. Il est très dynamique. Et puis, c'est vrai qu'on a ses... Parce qu'il fait toute une gamme. Hein, il a des rouges, des rosés, des blancs secs, des doux. Et on aime bien toute sa gamme, et ça reste des prix tout à fait abordables.
Combien ça coûte, ça?
En magasin, on est à 5,70€.
Alors, vous dites qu'il est dynamique, mais est-ce qu'il est biodynamique?
Il est biodynamique,
Alors,
Travail des Armagnacs aussi, Cyril Audet, hein. Donc c'est un terroir un peu particulier, lui, quand il en parle, il dit que c'est un terroir un peu à part, le terroir sable fauve, on appelle ça. Donc ça donne des vins à la fois assez généreux, mais avec une belle élégance et il y a une belle complexité. Enfin, c'est un vin...
J'aurais pas vu marquer qu'il y a 12 degrés sur la contre-étiquette,
ouais.
J'aurais dit... Il fait 14,
oui, il fait plus fort, hein, aussi.
C'est quoi, c'est le tanat qui fait ce truc-là, là ?
Ah ben, après, effectivement, on est sur des cépages au sud-ouest, on a des cépages quand même assez vigoureux, généreux, ça titre toujours... ouais, un peu plus.
Et ils sont où, alors, cette famille Laudet qui fait...
Ah,
c'est où, par le Bosque ?
Par le Bosque.
C'est dans le 64, hein.
Il voilà. Est où le vigneron ?
Comment ?
Le vigneron, il est où ?
C'est dans les Landes, non ?
Par le Bosque, c'est dans les Landes, oui. Non, ah bon. Attendez, que 64, c'est pas les Landes, c'est 40 les Landes.
Ah ouais, non, le 64, c'est quelque chose.
C'est les Pyrénées-Atlantiques. Il a des vignes dans les deux, sur les deux départements, lui.
D'accord.
Il peut être terroir landais ou Côte de Gascogne.
D'accord.
Voilà. La boutique des vins, elle existe depuis quand ?
1982, Georges.
Donc ça fait 40 ans. Non, 30 ans.
Ah non, oui.
30 ans.
30 ans, oui.
Et moi, ça fait 20 ans que j'y suis.
Déjà.
Voilà.
Okay. Pas mal, belle constance.
Et quels sont les produits que tu vends le plus ?
Ben, nous, on a à peu près, à la boutique des vins, à peu près 1200 références. Donc, on est deux filles à travailler à la boutique et deux garçons. Donc, on se dispute un peu. Nous, les filles, on est plus sur la Bourgogne, sur les choses, plus sur l'élégance. Et les garçons, qui sont des jeunes recrues, ils sont plus sur les vins du Languedoc-Roussillon, des choses plus ensoleillées.
Les vins un peu à la mode, là, avec des étiquettes colorées, avec des noms un petit peu genre le vin de pétanque ou des trucs comme ça, vous en avez dans votre cave ?
Nous, on juge, on teste, si vous voulez, à l'aveugle, en général. Donc, quasi tous les jours, on essaie de faire une dégustation... avec les bouteilles cachées, donc c'est pas quelque chose qui va nous effectivement quand
alors
après
que nous,
on
savez,
a chaud...
nous on cache les bouteilles,
oui, voilà, non, mais après quand on a une fois qu'on a goûté et qu'on a sélectionné, on juge l'étiquette, c'est certain qu'il y a des étiquettes qui sont plus vendeuses que d'autres.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là qu'il y a eu cette semaine en Bourgogne, là, la maison Labouré-Roy qui aurait vendu 2 millions de bouteilles prestigieuses, donc en Bourgogne, des morceaux, des hautes côtes de nuit et tout ça, et dont le contenu ne correspondait pas forcément avec l'étiquette.
Oui, ben écoutez, moi je n'ai pas trop ce genre de vignerons dans ma boutique, enfin je pense pas, c'est sûr. Les grandes sociétés. Puis...
Ah ben c'était le troisième négociant, enfin c'est ouais, le troisième ouais. négociant voilà, Bourguignon.
Bon, c'est bien dommage parce que ça fait du tort à tout le monde.
Ben plutôt, parce qu'aller payer une bouteille de Meursault, je sais pas, 50 euros pour se retrouver avec du 3 étoiles à l'intérieur,
ouais. Et c'est ça, après pour nous, c'est vrai qu'après pour nous, caviste, c'est difficile. Surtout, bon, la Bourgogne, c'est vraiment un terroir particulier, quoi. À la limite, quand vous achetez un château Saucian d'Aumalais, château Margaux, vous avez, voilà. Le prix, voilà, mais quand vous achetez du morceau, il y en a à tous les prix. Il y en a 15 euros en grande distribution, et chez nous, moi, ça peut être jusqu'à 60, 70 euros, et bien plus.
Et vous mettez un malin plaisir à connaître les vignerons, ou pas ?
Alors, bon, moi, j'avoue, ça fait donc 20 ans que je suis là, donc au début, c'est vrai que je me suis beaucoup déplacée. Et puis, bon, maintenant, le travail faisant, je me déplace moins, mais je les ai souvent au téléphone, ou... voilà, j'en connais certains, je ne les connais pas tous, c'est sûr.
Oui, avec ta notoriété, maintenant ils viennent te voir.
Voilà, j'ai plus besoin de me déplacer.
Très bien.
Rançon de la gloire.
Mais je me déplacerai après, voilà, dans 10 ans, quand mes enfants ne seront plus à la maison, je repartirai les week-ends en vadrouille.
Sur les routes du vin.
Avant de vous laisser repartir à vos occupations, Valérie, donnez-nous votre coup de cœur de la semaine. Allez, faites-nous plaisir. Quel,
là,
est, le, quel est le vin qu'il faut qu'on achète pour le week-end ?
On a un vigneron, là, actuellement, parce que tous les week-ends, on fait venir un vigneron, les vendredis et samedis. Donc, puisqu'on est sur deux étages à la boutique des vins, et là on a Monsieur Boscari qui est château La Croquette sur Mer à La Clape, coteau du Languedoc, et donc c'est des vins donc autant en rouge, on a en rouge, rosé et blanc, dans le rouge, et c'est à la fois pareil, c'est des vins assez délicats, pas trop, qui titrent pas trop, donc ils sont, on va dire, plus digestes, quoi, vous voyez, pour la saison. Et bon, c'est, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, on a beaucoup, beaucoup de rosés, là, pour la saison.
Ah, ben le rosé, ça envahit le monde.
Le rosé de l'île de Porquerolles, Château-la-Courtade. On a...
Mais heureusement que je vous demande votre coup de cœur un seul et puis vous m'en donnez plein.
Ça va pas du tout.
Mais bon, ça dépend des situations. En blanc, par exemple, j'ai goûté Cendrillon, la domaine de comment il s'appelle, domaine La Garolière là, donc qui fait du Cendrillon du Chenin, par exemple. Ça, c'était super. Après, on a rentré des nouveaux Ménétou Salon. Bon.
Et ça, pour nous, votre coup de cœur, ce sera les terres basses de la Balle. C'est ce Côte de Gascogne qu'on déguste à votre santé, Valérie. Rappelez-nous l'adresse de votre cave et son nom surtout.
Alors, la boutique des vins, place des Carmes.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et merci pour ces
bouteilles.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
You need a real man. Voilà, on peut passer au suivant. Hein, bah allez, passons au suivant.
On va voir qu'on a pas trop de bouteilles.
Mais non, bah non, il va nous en manquer. Allez, on peut reprendre un petit coup.
Mais
ouais, allez.
Alors, tiens. On la gardera en cave.
Messieurs, je vous propose un morceau qui est rentré en playlist sur CFM Radio, que j'ai le plaisir de vous dédicacer, parce que, c'est un morceau que forcément vous connaissez, qui a été repris. Aurélien ne connaissait pas,
non.
Vous, avec votre culture musicale, bien sûr, vous connaîtrez ce très vieux morceau.
Bah, je croyais que tu parlais de notre grand âge.
Mais ça tient à votre grande culture. Et vous retrouverez, donc vous me direz à la fin de ce morceau quel était l'interprète à l'origine de ce morceau d'Anaïs. Santé. Elle aussi, qu'est-ce qu'elle déguste?
Après trois semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière, un triste matin me plaquait. Chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de priser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces matins. Alors pour suivre mon noir dessin, j'ai fumé de l'eucalyptus. Je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive avec mes lèvres un lectus. Je me fais et j'en bois même. Alors il me pousse les ailes, je me pique à l'eau de Javel.
Voilà, la chanson stupéfiante d'Anaïs. Alors, je vous explique, tout le monde a cherché...
C'est légalisé, ça, comme chanson?
À chercher à savoir l'origine de cette chanson. Et c'est vrai que vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous demander qui chante ça sur la chatbox de cfmradio.fr. Et donc, la réponse, c'est que c'est Anaïs qui chante cette chanson et que c'est une reprise de Marie Dubas. Marie Dubas, 1894-1972, et qui, en son temps, donc, avait fait un tabac, mais ça ressemblait plutôt à ça. Écoutez.
Qui avait fait un tabac, j'aime bien.
Écoute.
Alors, pour suivre mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus. À la dérive, fumant comme une locomotive, avec aux lèvres aricus, j'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu, d'une main câline, couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je les mets en l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline. Les cheveux hagards, l'œil irrité, je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai brisé de la naphtaline.
Moi j'aime quand la jeune chanson française va puiser dans le répertoire culturel français pour le réadapter vraiment. Elle en a fait une chanson super moderne, je trouve.
Ah oui, c'est très bien, ouais.
Son clip, tu me disais.
Oui, le clip est très bien.
Ouais. Et très très bien aussi. Voilà, c'est Anaïs en playlist sur CFM. Et ça vaut vraiment le coup avec cette chanson stupéfiante.
Une grosse partie.
Quel an !
Dites donc, on est en train de déguster un petit clafoutis de chez Pascal Olivier, un clafoutis sans les noyaux. Alors
ah
ça,
oui.
Merci Pascal.
Ah oui, non, merci.
Moi j'aime bien avec les noyaux.
Je suis contre le clafoutis.
Le débat, alors, le débat
sur les noyaux. Elle est dentiste, soit votre fille, soit votre gendre, soit votre belle-fille, soit votre meilleur copain. Alors si vous êtes dans ce cas-là, laissez les noyaux, parce que là, ça, vous avez une chance sur deux de vous péter une dent. Alors c'est vrai que ça donne un petit goût,
ça
mais finalement...
Goût, et puis ça le tient, suivant
oui,
comment tu le fais.
Ça le tient pas
aussi.
Plus, c'est meilleur sans les noyaux quand même à manger, parce qu'autrement là tu laisses
les
ratiches.
C'est plus facile à manger pour ton grand âge, mais bon, j'aime bien le goût du noyau.
Ouais, mais moi j'enlève le dentier et puis je mastique.
Moi je dirais, si vous achetez, si vous avez des cerises de saison que vous venez de cueillir sur l'arbre, qui sont ici, là on est en plein, donc elles ont suffisamment de goût, vous pouvez enlever les noyaux. Si vous allez acheter des cerises qui viennent d'Argentine, alors évidemment elles n'ont pas
non,
de goût.
Mais
alors
pas,
évidemment
non,
il faut laisser les
cerises, c'est deux
faut
saisons,
même laisser les queues avec.
Oui voilà. Non mais là c'est de la cerise du marché. Elles sont pas données les cerises cette année avec
comment
les intempéries.
Comment tu fais ça?
Comment je fais ça? Ben, je dénoyote mes cerises tout bêtement et puis après c'est la pâte, c'est une pâte à crêpes un peu épaisse. Donc 50 grammes de farine, 2 œufs, un peu de lait, peu de vanille, un trait de rhum. On touille tout ça, on mélange, on met ça dans
tu
un
mets
plat.
Tu mets pas du kirsch?
Je mets pas du kirsch, parce que j'en avais plus, je l'ai bu.
Voilà.
Bon, mais on peut le faire avec un phare, tout simplement.
On peut le faire avec
une pâte à phare.
Voilà. Type flan, non, j'aime pas.
Non,
type flan,
le phare,
non.
Pas flan, parce que le phare, tu rajoutes la farine, hein, donc ça donne un peu de consistance.
Voilà, c'est une pâte à crêpes un peu
épaisse. C'est le même principe. Hein.
C'est le même principe. Aromate, donc du sucre, de la vanille, un coup d'oignol, d'armagnac, de
rhum, de ce qu'on veut. De kirsch, c'est bien.
Voilà, ou du kirsch. Et puis au four,
combien de temps?
40 minutes à 190 degrés. et ça confit. Moi, je ne le fais pas cuire trop fort, donc j'aime bien que ça confise. Et puis, les arômes s'exhalent à mi-cuisson.
Bah, c'est plutôt c'est pas mal réussi.
C'est bien. Est-ce que tu as l'outil pour dénoyauter
les cerises? Ah non, je le fais à la main. Non. J'ai pas l'outil à dénoyauter les cerises.
L'outil, moi, avec ma grand-mère, il y avait un outil, tu sais, où tu posais la cerise dedans, comme ça.
Ah, c'est
où,
comme,
et tu servais comme une pince. Et...
C'est le dénoyauteur d'olive.
À olive.
Ouais, c'est ça,
qui servait aussi pour, éventuellement pour les cerises. Parce que les olives, tu en as toute l'année, les cerises.
Alors non, mais le problème du dénoyautage avec un outil comme ça, c'est que quand les cerises sont bien gorgées, tu t'en fous partout. Tu crépis tout au jus de cerise. Ah, ouais. Ça ne part pas.
Mais comment tu enlèves? Donc tu mascarnes quoi?
Au couteau, clac clac, boum boum boum.
Mais tu les coupes, oui. Donc elles ne gardent pas leur forme ronde.
Non, c'est des demi-cerises. Et puis j'y rajoute un petit peu. Je les fais macérer avec un petit peu de sucre pour qu'elles jutent du jus là, qu'elles larguent du jus qui se mélange à la pâte à crêpes un peu épaisse. Et là, ça donne un truc qui est pas mal. Je pense avoir une bonne technique. De toute façon, je suis tellement gourmand que moi, je mange ça tout seul.
Elle est très bien ta technique, bon. Pascal Olivier.
Et avec du vin rouge, c'est parfait.
C'est très bien.
Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'on déguste? On se retrouve dans quelques instants.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Alors on est entre nous hein, au studio 5 boulevard Garrison à Montauban avec Pascal Olivier, Georges Bonfils, Gaël Sandbach, Aurélien est à la technique. On lève notre verre à votre week-end, et évidemment. On lève notre verre ce soir avec des bouteilles que nous ont offert quelques cavistes à qui on passe des coups de fil. On a déjà passé un petit coup de fil à une jeune femme à Toulouse.
Valérie Antérieux, la boutique des vins.
Voilà, qui nous a généreusement offert les terres basses de Laballe. Et c'est plutôt pas mal, voilà, bien que le vin soit un petit peu chaud là sur le coup. Voilà. Avec quoi est-ce qu'on enchaîne, Pascal Olivier?
Alors on va enchaîner avec un Cahors 2010, le domaine de Lantenette. Donc ça c'est offert par la maison de Picole Olivier et associé. j'ai bien aimé ça, je l'ai goûté. Donc c'est un vin vraiment totalement bio, macération lente, sans levure, sans enzymes, pas de chaptalisation et pas de sulfite. Et pas de flash pasteurisation non plus.
Donc ça veut dire que c'est un vin qui sort
un vrai vin vivant
qui sort de ta cave et qu'il faut boire vite.
Non, pas du tout. Pas du tout.
S'il y a pas de sulfite, ça se conserve pas.
Mais si, ça se conserve, il n'y a pas de souci.
Ça se conserve pas sans sulfite.
Le blanc impérativement au froid et le rouge. Le vin se fait à la vigne, donc des vignes saines, on peut avoir un jus de raisin, vraiment un vin jus de raisin.
Est-ce que ça peut être un vin de garde ça?
Mais bien entendu, vous pourrez le boire jeune, mais il est aussi un peu comme vieillissement.
C'est un peu comme tous les sportifs quoi. Il y a des trucs, il y a des nouveaux trucs que tu décèles pas quoi.
Tu n'en auras pas.
Il n'y a pas de sulfite, il y a autre chose.
C'est un Cahors, un pur Malbec. Bon, quelque chose de très noir. Et je trouve que c'est une belle expression du Malbec. Et c'est du vin sans artifice, sans rien du tout. Là, vous allez goûter sur pièce. Allez, moi, j'aime bien.
D'ailleurs, maintenant, le Cahors développe sur le Malbec. Quand on arrive à Cahors, on voit des panneaux pays du Malbec. Ils mettent en avant le cépage.
Le vigneron qui fait ça, il est en bio depuis plus de 20 ans. Donc c'est pas un effet de mode, c'est pas un récent qui... Alors je l'ai carafé pendant 2 heures comme il est conseillé sur la contre-étiquette. Et c'est vraiment du Malbec.
Effectivement, ça ressemble au vieux Cahors d'il y a 20 ou 30 ans. Hein.
Voilà. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'excès en bois. Alors, c'est un vrai jus, un vrai jus de raisin, un vrai bon jus de raisin.
Ah si, c'est bien. Ah oui, c'est...
Ouais, c'est bien, ouais.
Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mangé ce clafoutis? Il faudrait manger du clafoutis à chaque fois qu'on déguste du vin rouge.
Ouais, ça va très bien, les cerises, ça va très bien.
Il faut absolument que pour tous les vendredis qui arrivent, là, tu nous fasses des clafoutis.
Des clafoutis d'ailleurs, je tiens à le préciser, pas un clafoutis, parce que ça va un peu vite quand même.
Il y en a déjà plus. On écoute du jazz.
Donc aujourd'hui, on écoute un petit peu de jazz pour continuer la présentation du festival. Le 16 juillet, il y aura au conseil général, c'est-à-dire à l'évêché, un orchestre de jazz qui s'appelle Pink Turtle. Pink Turtle a été la meilleure vente de disques de jazz en France en 2011, avec plus de 25 000 disques. Leur principe, c'est de reprendre en jazz des morceaux de pop music, des morceaux hyper connus, style Monet, Hotel California.
Mais tu l'as pas déjà, déjà faite, cette chronique. Oui,
je l'ai déjà faite, c'est
sûr. Tu l'as reçue, cela.
Mais il y a une raison, c'est que le Pink Turtle joue au Festival de Jazz de Montauban le 16 juillet, dont nous écoutons le premier morceau, une composition de Lou Reed, Walk on the Wayside.
Tu recycles en fait, tes chroniques toi aussi. Hein. C'est Christophe qui a lancé cette mode de recyclage de chroniques et tout le monde s'y met. Ça va pas du tout. Take a walk on the white side. Said hey honey,
take a walk on the white side. Chin chin. Putain, j'ai trempé le pied dans le pinard.
On va changer de chaussures.
Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the chorus girls go to do do to 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City, the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the white side. I said, hey babe, take a walk on the white side. Alright!
White side, take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk.
Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the chord girls say, do 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 do.
De la pop musique, de la pop en jazz avec Pink Turtle.
Oui, c'est vrai que c'est une belle reprise pour le coup. Pink Turtle, ce sera quand donc?
Ça sera le 16 juillet à Montauban.
Qu'est-ce que tu ne rateras pas à Ahmad Jamal sur ce festival de jazz, toi?
Maceo Parker. Ernesto Tito Puentes.
Ah ouais, ça va être une belle soirée.
Il y a aussi Mattioli. Mattioli, c'est un jeune pianiste italien qui fait du Jerry Lee Lewis avec la même énergie qu'avait Jerry Lee Lewis dans les années 50. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un killer de piano, quoi.
Donc voilà, ne pas rater, c'est à partir du 29 juin et donc jusqu'au 2 août, mais parce que il y a des concerts qui vont avoir lieu ici à Montauban, dans le jardin des plantes, et puis tout un tas de concerts qui ont lieu un peu partout dans le Tarn-et-Garonne, décentralisé en Tarn-et-Garonne,
à Montèche,
à Nègrepelisse, un peu partout quoi.
Escatalens, Beaumont-de-Lomagne, Verdun-sur-Garonne.
Eh bien là, on part au Temps des Vendanges, qui est aussi un caviste toulousain. C'est 9 places de l'Estrapade. Et là, on parle avec Eric Cuestas. Bonsoir Eric.
Bonjour Eric.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
C'est quoi un peu l'histoire du Temps des Vendanges?
C'est l'histoire d'un rêve professionnel qui s'est concrétisé en 2002. Moi, j'étais sommelier, en fait, dans plusieurs restaurants, et un petit peu l'envie de voler ses propres ailes, là. Voilà, donc, avec une certaine idée de la défense du vin, quoi.
Et c'est quoi cette certaine idée de défense du vin?
C'est l'idée de défendre des vins qui sont au plus près du raisin, avec une expression la moins fardée possible, et avec... le plus de naturel possible.
Alors,
on entend par là des vins qui soient issus d'une viticulture pérenne, avec un travail en cohérence en amont, quoi. C'est-à-dire un travail qui est très rigoureux tout le long du cycle végétatif, avec un travail, une viticulture sans intrants, sans désherbants chimiques.
Donc du bio, quoi. Hein, on est d'accord.
C'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. C'est parce que bio, c'est on entend par vin issu de l'agriculture biologique des vins. Il s'agit seulement lorsque on est en viticulture biologique d'un travail très rigoureux en viticulture. En revanche, on peut avoir des choix très interventionnistes et très. On peut avoir recours à la science de l'oenologie de manière trop importante à mon goût et faire des vins bio. En fait, le vin naturel, lui, est un vin bio avec un prolongement en cohérence avec ce qui se passe à la vigne, à la cave, c'est-à-dire qu'on utilise le moins d'intrants possible. J'entends par là que les vins naturels ne doivent pas être levurés avec des levures exogènes, ne peuvent pas être acidifiés, ne peuvent pas être désacidifiés, chaptalisés à minima, avec des doses de sulfite, et c'est ça qui est très important.
Alors justement, on est en train de
la digestibilité des vins.
Alors, on est en train de déguster.
Je faisais découvrir à mes petits camarades le domaine de Lantenay, qui est un Malbec.
Ouais.
Donc, macération lente, sans levure, sans enzymes, pas de chaptalisation, voilà. Pas de sulfite, donc du vrai Malbec. Oui. Et pourtant, alors, on a des purs et durs de la chimie vitivinicole, qui finalement viennent de dire, c'est pas si mauvais que ça.
Mais c'est pas si mauvais que ça.
Qui c'est les purs et durs de la...
Mais c'est vous, c'est vous, c'est Georges.
Dites-moi, non, la petite blague qu'on se faisait avec Pascal Olivier, c'est qu'on disait, mais s'il n'y a pas de sulfite, c'est pas un vin qu'on peut garder, c'est un vin qui ne tiendra pas. Est-ce que ces vins-là tiennent quand même, alors? Ou est-ce que, comme Georges le dit, s'ils tiennent, c'est parce qu'il y a des nouveaux produits, un peu comme dans le dopage et le cyclisme, qu'on ne connaît
pas
encore?
Un peu comme nous, les raisins, s'ils sont assistés, comme nous, si on est assisté d'antibiotiques, eh bien, on sera plus vulnérable. Pour les raisins, c'est un peu la même chose. Plus on les assiste, plus on leur donne des intrants, eh bien, plus ils seront vulnérables et plus on aura recours au SO2, au sulfite. Et là, c'est un peu la même chose, c'est un peu l'histoire de la fuite en avant, quoi. C'est que plus on...
Ouais, on finit par mettre un produit pour arrêter les mauvais effets d'un autre et c'est une sorte d'escalade comme ça.
Demain, samedi 16 juin, chez le Temps des Vendanges, il y a une dégustation avec des rencontres vigneronnes. Donc Julie Balani, Vin Fleury, le domaine de l'Anglore, Eric Pfifferling, qui est le pape du Tavel, Maxime Magnon, Corbière, qu'on connaît pas mal, de domaine Gérald Marula, et le Potron Miné, je crois que c'est Jean-Sébastien Giraud. C'est que des gens qui sont dans cette optique-là.
Absolument, oui. L'idée, c'est de mettre en avant des gens qui sont déjà bien établis, comme Maxime Magnon ou Eric Fifferling, qui se sont installés en 2002, un peu comme nous, quoi. Et bon, qu'on accompagne depuis cette période-là. Et ensuite, des gens qui sont installés récemment, comme Julie Balagny à Fleury. Là, on va goûter sa troisième récolte. Jean-Sébastien, je crois que ça va être 2005-2006. Sa première récolte, 2006, je crois. Et Gérard Malruda, c'est quelqu'un qui travaille déjà à Chinon, chez un producteur de Chinon bien établi, c'est le domaine de Bonaventure, et qui fait son petit carré de jardin le week-end, qui fait des vins un petit peu coutumés.
Est-ce que les gens vont vers ces vins-là maintenant? Est-ce qu'on sent une tendance de fond, ou alors c'est vraiment anecdotique?
Non, ils vont à la mer.
Vous avez deux magasins, hein. Vous en avez un
oui,
place de l'Estrapade à Toulouse et un autre
à Plaisance-du-Touche. Mais moi, ce que je ressens, c'est que les gens qui goûtent, ils reviennent et
donc
ils sont plutôt enthousiastes.
On entend derrière vous des bruits de bouteilles. Là, vous êtes dans la cave, là. Vous êtes en train de ranger les bouteilles en même temps qu'on vous parle. Choisissez, 3, 4.
Qu'est-ce que vous nous choisissez comme comme vin de la semaine?
Un grand classique de cette famille de vins, un grenache issu de jeunes vignes, produit dans la Drôme provençale, au domaine Gramenon, un petit peu un des domaines.
Gramenon, c'est un peu surextrait à mon goût, mais enfin c'est pas grave.
Oh, c'est pas si extrait que ça. On va dire que ça a gagné en tannin peut-être, mais
donc un gramme non, poignée de raisin.
Ouais, vous avez mis quelque chose de plus léger, me semble-t-il. On va changer, monsieur.
Donc ça, c'est le vin de la semaine, domaine Gramenon. Domaine Gramenon, on peut avoir chez Pierre Cantegrel, ici, Faubourg 73.
Oui, à Montauban.
Voilà, par exemple.
Oui. C'était
gratuit.
Oui, allez, bim.
Non, ou sinon, un vin plus de saison, si vous avez une large soif.
On a toujours une large soif.
Un cheverny du Clos du Tubeuf, des frères Puzela. Bon, quelques encablures de Blois sur des argiles à silex. Du Gamay... qu'on boirait même sans soif, quoi.
Voilà. Et surtout avec soif, c'est pire.
Et voilà, nous, et là, ce serait pire encore.
En ce moment, on boit ce domaine de Lanthenay, ce Cahors. On trinque à votre santé.
Mais Lanthenay, c'est intéressant parce que c'est des Cahors un petit peu débarrassés de la puissance tannique du Malbec, comme vous disiez.
Ouais.
Et sans le phare de la barrique, souvent un peu trop imposant à Cahors. Des élevages souvent trop longs qui assèchent les fins de bouche et les Malbecs un peu trop extraits à mon sens, comme vous disiez. Donc Lanthenay, c'est un peu l'antithèse de tout ça, quoi.
C'est le cœur de fruit
du Malbec sur des grands terroirs, parce qu'il faut pas oublier que Cahors, c'est un grand terroir.
Eh ben voilà, redonnez-nous s'il vous plaît le nom de votre cave et votre adresse.
Ah ben le temps des vendanges, 9 place de l'Estrapade à Saint-Cyprien, demain toute la journée.
Dégustation. Nous y serons et puis on fera un petit reportage, tiens, qu'on passera la semaine prochaine.
Super.
On va interviewer Pifferling, Maxime Magnon et tout ça. Bon, c'est on passera ça la semaine prochaine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève tôt en plus pour aller faire.
Mais non, c'est de 11h à 19h30. Mais 11h,
ça se lève tôt. Allez, merci d'avoir été avec nous.
Merci Eric Cuesta.
Merci. Au revoir. Salut.
Alors dans les spéciales copinage, on peut dire que Cave à Vin organise une dégustation alcool pour ce week-end de 9h30 à 20h pour la fête des pères. Donc vous avez un papa, vous voulez le bourrer, vous l'envoyez faire une dégustation alcool chez Cave à Vin.
Il y a des bons trucs. Ouais. Il y a des whisky, des cognacs qui sont exceptionnels.
Les casse pas trop quand même. Parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent. Donc les dégustations, c'est quoi? C'est par coup de 2 centilitres, 1 centilitre?
Ah non, chez Cave à Vin?
C'est 0,01 centilitre.
De quoi, chez Cave à Vin?
Oui.
Oh, mais moi je sais pas, moi quand il me fait déguster.
Oui, mais nous c'est pas pareil, on est.
Vous venez à pied de toute façon.
Non, mais après je sais pas, moi j'ai. Voilà.
C'est toujours avec modération.
On a quelques privilèges du fait de cette émission, donc on peut pas savoir si nous ce qu'on nous sert dans nos verres c'est la même dose qu'on sert dans celle des autres.
En fait, vous faites arroser quoi.
Nous on boit et on bouffe à l'œil.
qu'on se le dit.
Et souvent, c'est dans l'œil droit ou dans l'œil gauche.
Hier soir, c'était jeudi soir, donc si vous écoutez cette émission en direct, si vous nous écoutez samedi matin, c'était il y a deux jours, il y avait à Toulouse, au Zénith, des monstres quand même du rock international, puisqu'il y avait ces messieurs de chez les Guns N' Roses. J'ai vu un Zénith plein comme un œuf, rempli de Quadra, Quinca, Sexa,
voire plus.
et aussi de très jeunes gens, voilà, qui découvrait qu'il avait sans doute piqué les cassettes à papa. Et donc un show des Guns N' Roses comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire à l'américaine, avec
un
énormément de sons très forts, évidemment, des écrans géants plasma sur lesquels étaient projetés quelques clips un peu mièvres qui accompagnaient ce rock FM parfois très variétoche qu'est capable de faire Guns N' Roses.
Oui, c'était les bonnes années de MTV, quoi.
Et oui, voilà. Et en même temps, quelques très très grands moments. Enfin voilà. Moi, ce qui m'étonne.
Slash était en forme.
Ils ont encore la pêche
C'est énorme, ça bouge dans tous les sens. Les mecs, en fait, ils sont rodés pour bouger d'un coin à l'autre. La scène, elle est quand même assez large là-bas, tu vois. Et puis alors, ça monte dans tous les sens. Il y en a pas un qui reste en place, qui reste statique une seule seconde. Ça joue énormément. Ça bouge énormément. Les guitaristes font chacun leur tour leur show. Il y a des feux d'artifice.
Ils passeront jamais au Rio, si je comprends.
Mais à mon avis, dans les Guns N' Roses, c'est comme dans les vins, il y a peut-être pas de sulfite, mais il y a sûrement d'autres substances.
Alors voilà, oui. Ça sort assez régulièrement derrière. Tu sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais régulièrement, quand même, ça sort.
En principe, ils vont chercher de l'oxygène. Ouais. Il y a des bouteilles d'oxygène. Pour les regonfler, pour leur remettre la pêche.
C'est que de l'oxygène, en fait.
Des pompes à oxygène. Ouais, voilà, ils sont pompés à l'oxygène.
Le mythe du rock'n'roll se casse la gueule.
Et après, tu les vois partir avec leur déambulateur et leur masse à oxygène. Non, des papilles du rock'n'roll, pas encore des papilles, hein, non, mais ça envoie du bois. Voilà, je dis, bon, ce rock FM qui peut être assez déplaisant à des moments, mais très surprenant à d'autres moments. Voilà.
Faut le voir en live.
Ils nous ont fait d'ailleurs une reprise à un moment des Pink Floyd de The Wall, qui était assez extraordinaire. Voilà, ils partent un peu dans tous les sens. Tu vois vraiment il y a une qualité musical.
Slash est un bon guitariste.
Ils n'ont pas repris Pink Turtle.
Tout est très très bien fait. C'est juste un petit peu fort, évidemment. Allez, on s'écoute un petit peu des Guns N' Roses. Allez, c'est.
Pas de l'ancienne, du neuf.
Ah ouais, du neuf. Mais ça, alors ça, quand ils ont joué ça hier soir, tu sais, quand tu es un petit peu assis derrière dans la salle, tu vois tous les téléphones portables qui s'allument parce que tout le monde croit pouvoir filmer ce moment-là et tu te retrouves évidemment avec ton téléphone avec un son de merde, tout ça, et une image de merde. Mais t'y étais et tu le prouves en montrant ton iPhone à tout le monde et en le postant sur Facebook. Voilà, un petit morceau des Guns N' Roses, ça c'est le dernier album, hein, Aurélien, le titre c'est
Chinese Democracy.
Voilà, mais ce que moi j'ai le plus apprécié en fait hier soir dans le, je devrais pas le dire comme ça, mais c'est vrai que ce que j'ai aimé dans le concert des Guns N' Roses hier soir, c'était leur reprise des Floyd et puis cette reprise là également. Alors, c'était qui ça ?
Bah, c'était les Beatles, le générique du James Bond, Live and Let Die.
Voilà.
Mais alors, est-ce qu'ils sont en manque d'inspiration pour faire des reprises comme ça ou...
Non, mais
pour
je pense
faire
que,
enfin, danser
que...
la bourgeoise.
Alors, c'est pas un manque d'inspiration que de reprendre un morceau des Beatles, c'est plutôt un joli hommage quoi.
Oui, mais enfin bon, je sais pas.
Oui, je pense qu'il faut faire perdurer les bons, tu sais, plutôt que de jouer des trucs moyens.
Il vaut mieux toujours préférer l'original à l'imitation.
Pas une imitation, c'est une interprétation.
Non, c'est une interprétation. Un peu comme tout à l'heure, on a eu l'interprétation
d'Anaïs.
Voilà. Là, on a une autre interprétation. Et nous interpréterons encore d'autres choses avec une belle constance.
Ah, ça c'est bien, Constance. Appelez-moi Constance.
Et beaucoup de dignité. Pour la suite des Qu'est-ce qu'on déguste, à tout de suite. CFM.
CFM. Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man. Qu'est-ce qu'on déguste, la suite. You need a sweet man. Mais oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est Qu'est-ce qu'on déguste. On démarre le week-end tous ensemble à l'heure de l'apéro, tranquillou. On fait ça bien sûr avec modération,
bien sûr, comme d'habitude,
et que de toute manière avec de très bonnes choses.
On est obligé de faire avec modération. Il y a plus de clafoutis.
Il y a pas de sulfite.
Il y a plus de clafoutis.
Tout est bon.
Et voilà, et on est au rouge ce soir.
Ouais,
parce qu'on a décidé que ce week-end allait être rouge. Parce qu'il y en a marre du rosé. On a bien compris que le rosé, ça n'allait pas.
Parce qu'il allait être rose. Le
ça n'allait pas marcher parce que le rosé ne peut fonctionner qu'avec un grand soleil permanent. Or là, on a pluie, soleil. Donc, on est au rouge. Voilà, qu'on se le dise, le week-end sera au rouge. Et n'hésitez pas même à déboucher des bouteilles de rouge pour l'apéro, parce que finalement,
c'est très bon.
C'est très bien. Le rouge à l'apéro, encore aujourd'hui, par exemple, on peut vous conseiller ce qu'on est en train de boire depuis un petit moment, qui est un domaine de Lanthenay, qui vous fera oublier tout ce que vous n'aimez pas dans le Cahors, c'est-à-dire ce côté astringent, c'est-à-dire ce côté lourd parfois,
fort,
un petit peu
rocailleux,
un petit peu vin à l'ancienne. Là on n'est plus du tout là-dedans avec le domaine de Lanthenay 2010.
Mais sans sulfite et bio en... 100%.
Ouais, vraiment très très bien. Donc la suite.
Bah si vous voulez acheter du rouge, pourquoi pas des AOC Coteaux du Quercy, puisque jeudi dernier, il y avait le concours de l'AOC des Coteaux du Quercy. Donc en rosé, il y a un seul rosé, c'est le domaine de Saint-Julien, le président Vignals qui a eu le premier prix. En rouge, domaine de Revel, notre ami Michael Reynal.
En rouge,
2011.
Il avait été champion du monde de rosé, lui.
Oui. En rouge non fût, domaine de Guillot, Jean-Claude Lartigue, qui était second sur un autre truc. Alors il devait faire la gueule parce qu'il est très mauvais perdant. Donc là, il a été premier. Jean-Claude, il est adorable, il est très mauvais perdant. Donc rouge non fût 2009, premier domaine de Guillot, premier aussi domaine de Guillot en rouge fût 2010, donc domaine de Guillot. En rouge non fût 2008, le domaine de Mazuc. Je vous le recommande, c'est à Puy-la-Roque, Eric Carle. C'est un vin extraordinaire sur du caillou, des arômes de fruits confits, de pruneaux à l'armagnac, c'est terrible, c'est drôlement bon et c'est pas cher du tout. En rouge fût 2009, le domaine de la Garde à Montcuq, le Pays Farinière dans le rouge fût 2008, donc les vignerons du Quercy qu'on a reçu il y a très peu de temps.
Il y a 15 jours,
ouais. Et le rouge vieux non fût 2007, encore Jean-Claude Lartigue, domaine de Guillot. Il est énervant, il bosse drôlement bien, donc il a 3 médailles d'or.
À quel concours?
C'est le 13e concours des vins AOC Coteaux du Quercy, donc c'est un petit concours avec que des gens qui connaissent, et là quand t'es premier, tu peux considérer que t'es vraiment dans les bons, parce que t'es vraiment jugé par tes pairs.
Il n'y a pas de Lafage, rien?
Eh ben Lafage, cette année, je ne sais pas s'il a présenté quelque chose, mais en tout cas, il n'a rien nu.
Ils sont combien à présenter des vins?
C'est ça.
Ils sont une trentaine à peu près. C'est un tout petit concours, mais c'est vraiment un concours de spécialistes, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment les coteaux du Quercy, qui ont l'habitude de goûter ça, et une médaille d'or chez eux, c'est vraiment pour les vignerons de l'AOC, c'est vraiment une belle récompense.
On ne met pas assez souvent un vin des coteaux du Quercy sur sa table le dimanche.
Non. Et il faudrait.
C'est pas parce que je fais partie de la confrérie des vins.
Ah oui, en plus, il faut nous amener la médaille. Il a une grosse médaille en bois, là, ou en plastoc, là, un truc énorme, là, qui pèse 3 kilos, là.
Une magnifique vidéo, d'ailleurs. Ouais. Tout ça.
Où est-ce qu'on en est? On écoute du jazz et on appelle un jazzman. C'est ça l'histoire.
Ça.
On l'écoute. Et, oui, on va appeler qui?
On va appeler Jean Marmonteau, qui est le pianiste de Pink Turtle. Et Jean Marmonteau va faire d'ailleurs aussi avec son quartet de la première partie de Pink Turtle le 16 juillet au château de Montoriol.
Buddy or no? man, poor man, pity to the rise, gonna make some peace someday. You got mud on your face, your big disgrace. Somebody better put you back into your place.
We will rock you.
Vous avez reconnu Will Will Rock You, joué par Pink Turtle, et nous avons en direct
Herbie Hancock, un morceau d'Herbie Hancock.
Bien sûr.
Et Pink Turtle qui joue au Festival de Jazz.
Qui joue au Festival de Jazz le lundi 16 juillet au château de Montoriol, c'est-à-dire l'évêché de Montauban. Nous avons en ligne Jean Marmonteau, le pianiste de Pink Turtle, qui est aussi montalbanais, et qui fera la première partie de Pink Turtle avec son quartet.
Et qui vient de terminer ses balances. Jean-Marc Monteau, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Oui, très bien. Merci. Très bien, là, on est vers la Dordogne, là, ce soir.
Ah, bah vous êtes dans un beau pays, déjà.
Oui, aussi. Un beau pays.
Oui, hier soir, tu étais au Méridien, vous présentiez votre nouveau disque.
Oui, on était au Méridien, donc ex-Jazz Club Lionel Hampton, puisqu'il a été débaptisé, hélas. Et c'est le Jazz Club du Méridien Étoile. Donc, ils ont présenté un lancement officieux, parce qu'il c'est pas encore dans les bacs, ça sera dans.
Je crois qu'il sort.
Deux jours dans le commerce.
Il sort le 29.
Eh ben voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais tu me l'apprends.
J'ai regardé sur internet cet après-midi. Et Frémaux l'a mis en vente, en pré-vente, à 14,90€ pour mise à la vente le 29 juin.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce disque?
Eh ben, tous les originaux de Pink Turtle, comme d'habitude, puisque c'est nous qui avons composé tous ces morceaux, vous le savez bien, qui ont été ensuite repris par Michael Jackson et les Beatles.
Évidemment.
Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a dans le dernier arrivage? Il y a du Get Up Stand Up de Marley. Il y a surtout, il faut le dire, dans le troisième album des Pink Turtle, il y a trois morceaux en big band. Sur les 13 ou 14 morceaux du disque, il y a trois morceaux arrangés en big band.
Avec quel big band?
Alors, c'est un big band complètement. C'est le Pink Turtle Big Band.
Il y a quelques pointures.
Un big band, oui.
Il y a que des pointures.
Dis-moi quelques noms.
Quelques noms. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons du Nicolas Montier, du Aurélie Tropez, du Pierre Guiquerot, du Jean-Claude Onesta, du Jérôme Echeverry, plus la rythmique Pink Turtle.
Oui, parce que sur le dernier disque, vous aviez Didier Lockwood, il y avait même Viel, il y avait
voilà, alors là, on a fait quelques guests, voilà, quelques noms. Donc là, on n'a pas réitéré.
Jean-Jacques Milteau.
Voilà. Et ça, on n'a pas refait ça sur le dernier.
Vous êtes fâché avec tout le monde?
Écoutez, trop cher.
C'est trop cher.
On n'a pas renouvelé l'expérience, disons, des invités, qui était vachement agréable à faire aussi, de jouer avec Lockwood, avec Morgan aussi de Cocoon sur l'album, le précédent album. Et là, non.
Oui, parce que cet album, il a bien marché. Vous avez fait, je crois, d'après la Fnac, c'est la meilleure vente de disques de la Fnac.
De disques jazz,
ouais.
Oui, je pense pas qu'on se soit autant vendu que
Madonna.
Comment s'appelle-t-il? Guetta ou des gens comme ça.
Ah oui, voilà. David Guetta. Oui.
Ça va être dur de rivaliser avec Guetta.
Mais en même temps, pas musicalement en tout cas. Qui a dit ça?
Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Marc Monteau, avec votre groupe Pink Turtle, justement, d'être une sorte de porte d'entrée pour le jazz, pour le grand public, finalement, puisque vous allez les chercher sur leur terrain, en quelque sorte, en reprenant des standards de la variété, j'appelle variété au sens large, quoi, hein, des morceaux très 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 connus, et que vous arrangez sauce jazz, c'est pour permettre aux gens de découvrir l'univers du jazz et d'aller peut-être plus loin après, c'est ça?
Alors le but au départ, c'est pas objectivement le but n'est pas celui-là, c'est pas d'apprendre, mais si c'est ce qui se passe à la sortie, tant mieux. Mm-hmm. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça permet de faire se rencontrer des standards du pop et de la rock et du rock, fin balance, chaleur. Et le jazz, mais de toute façon, bon, c'est un petit peu ce qui se passait aussi, on peut dire, dans les années 30, puisque les standards de jazz, c'était souvent des chansons de comédie musicale, et toutes les chansons de Cole Porter, de Berling, etc., c'était des chansons qui venaient de la comédie musicale, qui étaient, donc quelque part, en fait, c'est pas réellement nouveau. Mais après, oui, vous avez raison, c'est vrai que ça permet de faire une passerelle, et c'est vrai que c'est souvent vachement agréable de voir les gens, quand on joue dans le public, on commence un morceau, et on voit les gens, on voit un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête et se dire, mais oui, je connais ce truc, c'est quoi, mais si, tu sais,
c'est les... Mais c'est les Pinkertons qui ont fait ça! C'est énorme!
Et voilà.
Alors, sur la couverture de Back Again, il y en a deux qui tiennent un verre de vin à la main. Il y a quoi dans le verre de vin?
À votre avis.
Non, du vin, d'accord, mais quel
vin? Oui, du vin, c'est pas de l'eau, mais je sais pas, qu'est-ce que vous
c'est
pouvez voir?
C'est plutôt du Bordeaux,
il faudrait demander aux deux concernés, je crois que c'était un très bon cru, mais je voudrais pas m'avancer, donc il faudrait demander à Patrick ou à Laurent, je pourrais vous donner l'info pour mon tournant.
Oui, surtout que toi, contrairement à ton père, tu ne bois pas du tout de vin.
Non, c'est pas que j'en bois pas du tout. Il faut pas faire circuler des rumeurs à l'inverse. Alors moi, autant il y a des rumeurs qui circulent. C'est, vous savez, machin de drogue ou machin de bois. Et c'est Jean-Marc Manteau. Il boit pas assez.
Il boit pas assez.
Ben, franchement, selon une phrase qui va devenir célèbre. Franchement, on ne boit pas assez par rapport à ce qu'on devrait boire.
Voilà. Oui. Voilà. Et tout ce qui est bu n'est plus à boire.
On vous retrouve bientôt donc à Montauban pour le festival de jazz.
Tu fais la première partie de Pink Turtle avec un quartet.
Oui, c'est la première fois que je vais assurer ma première partie, ça c'est vachement bien. je joue donc avec un quartet pour la première partie de Pink Turtle, effectivement, donc avec Dave Blancorn à la guitare. Sébastien Girardot, contrebasse, et Guillaume Rouault, donc à la batterie, et moi, donc deux Français, deux Australiens pour ce quartet.
Ce sera le lundi 16 juillet, c'est quoi le répertoire?
Alors là, ça va être très très varié, mais on essaie de faire des choses un peu... Bon, c'est pas pour dire, pour être original à tout prix, mais enfin, il y aura de la musique de film, il y aura de la bossa, il y aura des choses, voilà, un petit peu... hors sentier battu, hors standard vraiment de jazz, même s'il y en aura. Mais on a des goûts assez...
Ouais, mais de toute façon, tu n'as qu'une heure pour jouer.
Voilà, de toute façon, donc on ne pourra pas faire tout ce qu'on a...
Et puis alors, généralement, les premières parties, ceux qui sont en face, ils n'ont pas encore fini de manger. Ça vous embête pas, les bruits de fourchette?
Si, justement, donc on attendra que le dessert soit passé.
Merci Jean-Marc Manteau d'avoir été avec nous sur CFM Radio ce soir. Je rappelle, le disque sort à la fin du mois. Il s'appelle comment? Pink Turtle numéro 3.
Il s'appelle Pink Turtle à la mode.
Pink Turtle à la mode. Merci Jean-Marc Manteau.
Et alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'on l'aura, enfin peut-être il faut pas le dire, mais ça reste entre nous. On l'aura avec nous. Si les gens veulent l'acheter le 16, il y en aura, c'est disponible.
Mais il faut pas le dire,
personne n'a entendu.
Merci Jean-Marc Manteau, à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Bye.
Au revoir.
Eh bien oui, dans Qu'est-ce qu'on déguste, il y a aussi une rubrique extraterrestre sur la bande dessinée.
Et oui, on va quitter l'univers des Tortues Roses pour aller rejoindre l'univers de Ted Knife, dont ces créatures sont un petit peu plus sombres. Donc Ted Knife est dessinateur de comics, mais on va le laisser parler un petit peu et se présenter lui-même. Si Aurélien veut bien nous envoyer le.
In America, my fans are very alternative people.
Aux États-Unis, mes fans sont des gens différents. Ils sont souvent très jeunes, mais aussi souvent gothiques ou punk.
Goths and punk rockers and
des gens bizarres qui ont des relations lointaines avec la société.
Et
ici, ce sont des gens de tous les jours. Je pense qu'aux États-Unis, vous devez être un petit peu étrange pour aimer la bande dessinée.
Voilà. Et oui, voilà, donc Ted Knife se présente lui-même, et donc, alors, c'est un dessinateur de comics.
C'était Nelson Montfort.
Et non, pas du tout, c'était le traducteur Nelson Montfort.
Le traducteur est étonnant.
Voilà.
Eh bien, vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste?
Alors, je voudrais vous rassurer, c'est pas moi qui ai fait la traduction, c'était lors d'une dédicace, je crois, en 2008. Alors, donc, Ted Knife est donc dessinateur de comics, comme on a pu l'entendre. Il vit à San Francisco, mais moi, je le connais aussi pour sa forte propension à ingurgiter des quantités énormes de nourriture et de vin, pour peu que ces derniers soient d'origine française. Alors, il est aussi, entre autres, l'auteur de Courtney Crumrine, donc la bande dessinée dont on va parler, de Polly et les pirates, et le co-créateur avec Serena Valentino de la série Gloom Cookie, qui est une satire de la culture gothique, ce qui explique un peu pourquoi il nous parle de son public un peu gothique aux États-Unis. Alors, Courtney Crumrine a été nommé 2 fois pour le fameux Eisner Award, et là, dans la BD dont on va parler ce soir, Courtney Crumrine, donc l'héroïne, est une ado d'une dizaine d'années, et elle déménage. Alors, ce qui n'est pas fait pour lui faire plaisir, hein, comme beaucoup d'ados, ils n'aiment pas trop les déménagements, moi non plus d'ailleurs, après avoir vécu des années...
Ah, mais elle déménage physiquement.
Elle déménage vraiment, pas non.
Mentalement.
Bah, si, on verra après qu'elle déménage peut-être un petit peu mentalement aussi. Donc,
je la débule.
Après avoir vécu des années au-dessus de leurs moyens, son père et sa mère ont enfin trouvé une solution à leurs difficultés financières. Ils partent en banlieue, dans l'immense manoir victorien de leur très riche oncle, le professeur Aloysius Crumrine. Et il ne détonne pas dans le quartier UP de Hillsborough.
Il a vraiment une gueule de maison hantée. Hein,
Oui, c'est ça. Alors toutefois, Courtney va bientôt découvrir que le fameux oncle Aloysius a une sinistre réputation et que de sombres rumeurs courent sur lui et sa maison. Et bien que cet arrangement donne à ses parents l'apparente ascension sociale qu'ils désirent tant, Courtney, elle, atterrit en plein cauchemar. Alors un cauchemar où elle se voit rejetée par ses camarades de classe plus aisés. Et comme si ça ne suffisait pas, le vieux manoir poussiéreux semble abriter des créatures encore plus étranges que son père, sa mère ou le fameux oncle. Alors elle rampe dans les couloirs sombres, elle ronge des os dans les coins et parfois elle grimpe sur le lit et observe Courtney pendant qu'elle dort.
Sa chambre était froide, poussiéreuse et inconfortable. Courtney fit face à sa déception du mieux qu'elle pouvait. Grogne.
Enfin, puisque vous êtes là, on va enchaîner sur notre histoire. Vous allez voir que vous n'allez pas.
Alors son père et sa mère, eux, ne les remarquent même pas, ces fameuses créatures. Mais l'oncle Aloysius, lui, sait tout sur elles. Il les appelle les choses de la nuit. Alors, je vous invite à redécouvrir, ou à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce premier opus, dans sa version couleur, réalisé par Warren Moutinik. Donc ça a été supervisé quand même par Ted Knife. Alors, les couleurs, je les trouve assez bonnes, quoique parfois un peu flashy. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Courtney revient en librairie le 21 juin prochain, en même temps que la fête de la musique. Ce sera le tome 5, donc il s'appelle Courtney et l'apprentie sorcière, en grand format noir et blanc. Alors, dans le tome 5, la vraie nouveauté, donc, Courtney fait la connaissance d'une fille particulièrement bizarre et curieuse, un peu comme tout le reste de l'univers de Courtney Crumrine. Alors, on retrouve un Ted Knife toujours aussi impressionnant, tant par son dessin que sa mise en scène, un graphisme assez particulier entre Mike Mignola, le créateur de Hellboy, et Frank Miller, le créateur de Sin City. Donc, si vous avez envie d'un peu de frissonner, mais aussi de poésie et d'humour, la série Courtney Crumrine, qui est un savant dosage entre Harry Potter et la famille Adams, est faite pour vous. Vous pouvez emmener ça dans vos bagages pour ce week-end. Donc, ça s'appelle Courtney Crumrine de Ted Knife fait aux éditions Aquileos.
Je peux t'aider? D'habitude, ça file une trouille d'enfer aux petites filles. Je vais prendre un risque et faire la supposition que t'es pas un vrai bébé. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie poupée? Bah, déjà, tu sens encore plus mauvais qu'un bébé humain. Le whisky me donne toujours des gaz. Ouais, le vrai bébé! Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas le tien. Ouais, mais sur qui ça va retomber quand ils rentreront et qu'ils verront que leur morveux a été remplacé par un hobbit mutant?
Voilà, c'est un joli petit aperçu. Donc là, c'est une histoire de changeling, donc les échanges de bébés par les fameuses créatures de la nuit.
Tchin tchin!
À la vôtre!
Alors, on se rafraîchit la bouche avec des bulles.
Voilà.
Donc,
de chez Vino Valli.
Un blanc de Vino Valli. Bah là, on passe du tout naturel ou tout chimico.
Oh.
Bah, non, enfin bon, non, c'est une petite pique. Allez, bon, c'est pour faire une transition. C'est un vrai métier, ça aussi.
Oui. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est frais, c'est
non,
bien.
Non, c'est bon. Franchement, c'est surtout parce que c'est frais.
Bah oui, mais c'est
un
le but.
Ça chaud.
Non, mais évidemment.
Tu vas vous ressouffler.
On arrive au terme de cette émission. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table des sorties de ce week-end, si vous voulez bien.
Genre... Oui, dimanche, je vais à Montpezat de Quercy parce qu'il y a un marché médiéval.
Ah. Voilà.
Ben, demain, dégustation des vins au temps des vendanges, donc place de l'Estrapade à Toulouse.
L'Estrapade?
Oui, l'Estrapade, après le pont neuf, comment s'appelle, le château d'eau, à Saint-Cyprien.
Ça par là, oui. Ouais. Bah, moi, c'est, l'établissement de la chronique sur Ted Naïfé m'a tellement épuisé que dimanche, je vais faire mon feignant, je vais rester chez moi à Molière, parce que l'auberge du Quercy Blanc a été repris par un jeune couple, donc Laetitia et Nicolas. Ils organisent un tournoi, il y aura des grillades, et ils ont récupéré aussi un cuisinier qui s'appelle Sylvain et qui vient du Rival à la française, et j'ai hâte de goûter. Voilà.
Voilà, moi pour ma part, eh bien je reste sur Montauban parce qu'il y a le festival de cirque Montauban,
il y a Eurythmie.
Ah, il paraît que tu joues là. Bonjour les petits enfants. Ta va.
Bonjour les petits enfants.
Ça va pas bien, ça va pas mieux.
C'est toi qui va mettre la tête dans le lion, dans la gueule du lion.
J'irai faire un petit saut quand même ce week-end à Villefranche-de-Rouergue parce que, eh bien, il y a un festival de vol en ballon. Donc j'espère qu'il va y avoir beau temps et que nous allons pouvoir faire des balades au-dessus de Villefranche-de-Rouergue en ballon dirigeable.
Ça. Dimanche.
Enfin, pas dirigeable justement, en ballon pas dirigeable.
À air chaud.
En ballon.
En montgolfière.
Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle.
Et c'est dimanche toute la journée.
Samedi dimanche. Voilà.
Ça coûte cher de monter dans un ballon.
Oui, ça coûte cher, mais on avait fait gagner des places, donc ça coûtait pas cher pour ceux qui ont gagné sur cfmradio.fr.
Génial.
Voilà.
Écoutez la radio, on gagne des trucs.
La guinguette, l'autre avec Carodez, ça bouge aussi ce week-end. Il y a des concerts.
Et puis, partout, 30 secondes, c'est ça.
Il y a une petite avant-première aussi à Bajamon dans le Lot-et-Garonne. Ils font une petite fête de la musique, ils font ça avant tout le monde. Et il y a plein de groupes, et ça a l'air d'être très sympa.
Bon, voilà. Et puis je suis passé devant chez Mado en venant, j'ai vu une affiche avec marqué il y a un groupe.
Salut tout le monde.
On va aller voir.
Bon week-end.
Allez, ciao.
Salut à tous.
À la semaine prochaine.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.